Bonjour à tous, c'est Jérémy. Petit message avant de commencer cet épisode pour vous dire simplement que vous pouvez accéder dès à présent et de façon exceptionnelle au replay de l'événement que j'ai lancé récemment, à savoir le sommet de la productivité. Un événement dans lequel j'ai réuni 7 experts de mon réseau pour vous animer gratuitement un total de 8 conférences sur la productivité. Des conférences sur l'énergie, sur la procrastination, sur également tout ce qui est charge mentale et j'en passe. Donc si jamais vous souhaitez accéder à 8 heures de contenu 100% gratuit sur la productivité, c'est maintenant ou jamais. Car je couperai les accès à ces replays-là, à ces rediffusions-là, le dimanche 28 avril à minuit. Si jamais ça vous intéresse, cliquez simplement sur le tout dernier lien présent en description de chacun de mes épisodes de podcast. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode que vous souhaitez écouter. À très vite. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Épisode dans lequel nous allons parler ensemble de la science qui se cache derrière la création des habitudes. Autrement dit, je vais vous présenter des protocoles, des méthodes et des stratégies pour prendre de bonnes habitudes au quotidien, comme vous lever plus tôt le matin, comme également faire plus de sport ou encore mieux manger. Également, je vais vous présenter des stratégies pour supprimer des habitudes dites négatives, telles que aller directement sur Facebook après vous être connecté à votre ordinateur. Ok, avant de commencer, comme toujours, sachez que vous avez directement accès en description de cet épisode à la fiche résumé et action. Autrement dit, à une fiche dans laquelle je reprends tous les points essentiels développés dans cet épisode, afin que vous n'ayez pas à votre niveau à prendre de notes. Également, le fait de télécharger cette fiche action-là vous ouvre droit à un forum privé sur lequel vous pourrez me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, soit en lien avec cet épisode, soit d'autres questions tout simplement. Ok, on va commencer maintenant. Et on va commencer par voir ensemble la raison pour laquelle il est important de comprendre le mécanisme par lequel notre cerveau crée des habitudes. Et surtout, pourquoi il est si important de comprendre que notre cerveau est une machine à créer des habitudes. En effet, vous les connaissez, ces comportements automatiques-là. Le fait, par exemple, de rentrer dans une pièce et automatiquement allumer la lumière. Le fait, par exemple, également de grignoter dès que vous rentrez dans votre cuisine. Tout ça, ce sont des mécanismes 100% automatiques au niveau de votre cerveau. Et une étude a été menée au niveau de l'université de Duke aux États-Unis qui a permis de démontrer que 45% de nos comportements du quotidien sont des habitudes. Et là, c'est important. Là, c'est intéressant. Pour quelle raison ? Car quasiment la moitié des actions que nous faisons sont automatiques, donc sont inconscientes. Parmi cette moitié-là, évidemment, il y a des choses futiles, comme le fait de mettre ses chaussures et de faire ses lacets, comme le fait de s'attacher après être rentré dans sa voiture. Mais également, il y a des comportements qui vont directement nous desservir au quotidien. On a parlé précédemment de grignotage. On a parlé précédemment également d'aller sur Facebook dès que l'on va se connecter à son ordinateur, qui sont deux comportements parmi tant d'autres, qui peuvent nous desservir par rapport à l'atteinte de nos buts et objectifs futurs. Donc, en apprenant à contrôler les comportements inconscients que nous avons au quotidien, on peut venir supprimer les comportements négatifs et implémenter, impulser, créer des bonnes habitudes qui, elles, vont nous permettre d'atteindre plus facilement nos buts, objectifs et ambitions futures. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais vous présenter dans cet épisode-là un plan en 4 étapes par lesquelles vous pouvez passer si vous le souhaitez pour implémenter facilement de nouveaux comportements dans votre quotidien. Et là, c'est vraiment intéressant ce que je viens de vous partager pour quelle raison ? Car on l'a vu précédemment, 45% de vos comportements sont des habitudes. Ce qui fait que le cerveau humain, comme j'ai pu commencer à en parler précédemment, est un logiciel à créer des habitudes. En effet, imaginez que vous deviez conscientiser chacune de vos actions, chacune de vos réflexions, chacun de vos comportements du quotidien. Cela serait beaucoup trop énergivore pour votre cerveau. Et comme vous le savez très bien, le but du cerveau humain, c'est lequel ? C'est d'assurer votre survie. Et donc, sa stratégie principale pour assurer votre survie, c'est laquelle ? C'est le fait simplement de mettre à votre disposition, en continu, une quantité suffisante d'énergie pour soit faire face à un danger en luttant contre ce dernier, soit pour faire face à un danger en fuyant ce dernier. Donc, si vous n'avez pas assez d'énergie à disposition pour soit vous battre, soit fuir, vous diminuez directement vos chances de survie au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle votre cerveau met en place quotidiennement de nouveaux comportements automatiques. Ok, maintenant comment ça se passe concrètement au niveau du cerveau humain ? Car je suis convaincu que si on comprend précisément les mécanismes par lesquels s'ancrent des habitudes dans votre cerveau que l'on peut effectivement en tirer des leçons, des leviers et des méthodes pour soit impulser de nouveaux comportements positifs, soit pour supprimer des comportements négatifs. Eh bien, dans votre cerveau, vous avez une zone qui va nous intéresser en particulier aujourd'hui. Cette zone, ce sont les ganglions de base. Ganglions de base, qu'on appelle également en neurosciences, les noyaux gris centraux, qui sont un ensemble de noyaux situés dans le système nerveux. Et plus précisément, ils sont situés dans le télencéphale, le diencéphale et également dans le mésencéphale. Mais ça, ce n'est pas spécialement important à retenir. Et en fait, ces ganglions ont pour fonction principale justement de programmer l'exécution des mouvements automatiques. Donc ça, c'est pour la première chose. C'est pour la localisation, on va dire, des habitudes qui vont se créer au niveau du cerveau. Maintenant, comment un comportement isolé se transforme-t-il en comportement automatique et donc en habitude? Eh bien, cette transformation-là s'opère par la répétition. Plus un comportement va être répété, plus ce comportement-là sera ancré profondément dans nos ganglions de base. Par exemple, à force de répéter l'action d'allumer son ordinateur au quotidien et de se connecter automatiquement à Facebook ou Instagram, le cerveau finit par se mettre en mode pilote automatique. Et c'est ainsi qu'on peut se retrouver naturellement sur Facebook sans même s'en rendre compte après avoir simplement ouvert son ordinateur. Et les ganglions de base, il ne faut pas les sous-estimer. En fait, ils sont si puissants qu'ils prennent le dessus sur la partie, on va dire, décisionnelle du cerveau humain, la partie rationnelle, la partie consciente, à savoir le cortex préfrontal. Cortex préfrontal qui, comme son nom l'indique, est situé au niveau du front tout simplement. Et en effet, contrairement aux ganglions de base, le cortex préfrontal est la partie du cerveau qui prend en compte les conséquences à long terme des actions, et également qui permet de synthétiser et de percevoir des concepts abstraits et non précis, typiquement comme la mortalité. Mais le cortex préfrontal a un défaut majeur, c'est qu'il se fatigue très vite. Pourquoi se fatigue-t-il si vite? Simplement car son utilisation est très énergivore. Là où à nouveau, suivre une simple habitude automatisée ne coûte quasiment pas d'énergie au niveau de notre cerveau. Et c'est la raison pour laquelle le cerveau privilégie autant que faire se peut l'économie d'énergie, donc les comportements automatiques. Et c'est la raison pour laquelle également, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes stressés, lorsque nous sommes malades, nous avons davantage tendance à tomber dans nos habitudes. Car le cerveau est programmé constamment pour suivre ce qu'on appelle le chemin de moindre résistance. Exactement comme l'eau, un cours d'eau qui s'écoule sur un sol va prendre naturellement le chemin le plus simple, celui qui va lui opposer le moins de friction. Pour le cerveau humain, c'est exactement la même chose. Donc là, on a vu précisément comment fonctionnent les habitudes dans le cerveau, comment elles s'engramment, comment elles naissent tout simplement. Avant de passer à la partie suivante, il est important également de faire un zoom sur le fait que pour le cerveau humain, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises habitudes, mais simplement des leviers qui permettent d'économiser de l'énergie tout en obtenant une récompense, comme on le verra par la suite. Donc, fumer, grignoter, etc. sont des comportements jugés comme étant négatifs par la partie consciente du cerveau, donc par le cortex préfrontal, mais pour les ganglions de base, cela n'a aucune importance. Cela n'a pas de conséquences, car comme on l'a vu précédemment, autant le cortex préfrontal peut avoir cette vision des conséquences négatives à long terme, autant pour les ganglions de base, il y a uniquement cette notion de conservation d'énergie qui va être prise en compte. Très bien, maintenant voyons comment est-ce que l'on peut passer de cette partie 100% théorique pour en tirer des leviers, pour en tirer des stratégies, pour en tirer des actions à mettre en place dès maintenant, dès la fin de cet épisode, pour vous permettre soit de créer de nouveaux comportements, soit d'en supprimer des négatifs. Avant cela, je tiens à vous préciser que vous pouvez trouver également en ressources un atelier gratuit qui présente la routine matinale que je suis chaque jour pour avoir plus d'énergie, plus de motivation et plus de concentration dès le réveil. Une routine composée d'actions, de méthodes et de protocoles, tous validés par la science, que je mets gratuitement à votre disposition. Donc si jamais cela peut vous intéresser, rendez-vous directement dans la partie description. Ok, donc là on va balayer les 4 étapes que l'on peut, on va dire, extraire de cette partie théorique dont on vient de parler. La première chose qu'on a vue ensemble, rappelez-vous-en, c'est la nécessité de la répétition pour ancrer un comportement isolé dans les ganglions de base pour que ce comportement devienne inconscient. Donc, une question naturellement nous vient à l'esprit, c'est comment faire en sorte de répéter suffisamment de fois un comportement pour que ce comportement s'ancre efficacement dans les ganglions de base. Et avant de voir justement la stratégie à mettre en place, je tiens à faire un aparté assez intéressant sur le mythe des 21 jours. En effet, il se peut que vous ayez, vous, à votre niveau, déjà entendu ce mythe-là, comme quoi il faudrait 21 jours pour implémenter une nouvelle habitude dans son quotidien. Ce mythe, comme son nom l'indique, est un mythe qui est hérité, pour information, d'un chirurgien qui a remarqué au niveau de ses patients, de façon complètement empirique, qu'il leur fallait en moyenne 21 jours pour s'habituer à leur nouveau visage. À partir de là, il a écrit un livre qui s'est très bien vendu, qui s'appelle Psycho-Cybernétique, dans lequel il inscrit noir sur blanc cette notion de 21 jours, qui s'est très bien répandue malheureusement, et qui est à l'origine de ce mythe des 21 jours. Alors que de nombreuses études ont montré qu'il faut en moyenne entre 3 jours ou 4 jours et 200 jours pour créer un nouveau comportement, pour qu'il soit automatique, pour qu'il devienne une habitude, avec une moyenne de 60 jours. Donc les 21 jours, on les met de côté. Ok, donc revenons-en à cette notion de répétition du comportement. Comment fait-on pour répéter suffisamment de fois un comportement pour qu'il devienne automatique ? Eh bien, pour cela, il faut une motivation suffisamment forte pour avoir la force de répéter ce comportement suffisamment de fois. Pour motiver quelqu'un, on a deux leviers à disposition, soit l'éros, soit le thanatos. Éros étant le dieu grec du désir d'être amoureux, on va se contenter de la partie désir ici, et thanatos étant le dieu grec de la mort. En neurosciences, on pourrait apparenter ces deux divinités grecques à deux molécules qui circulent dans notre organisme, à savoir pour Eros la dopamine et pour Thanatos le cortisol. La dopamine étant le neurotransmetteur de la motivation, qui va provoquer le désir d'obtenir quelque chose que nous n'avons pas, traduit en termes neuroscientifiques, d'obtenir une augmentation de nos ressources disponibles, soit ressources en temps, en argent, en relations ou autres, et Thanatos pouvant tout simplement s'apparenter au cortisol, à savoir, vulgairement parlant, l'hormone du stress. Le cortisol est beaucoup plus complexe dans son action qu'uniquement provoquer du stress, mais là on va se limiter à cette vision superficielle des choses. On a naturellement tendance à uniquement privilégier Eros. Autrement dit, quand on veut chercher à développer un nouveau comportement, on va naturellement aller sur le fait de se visualiser avec ce comportement ancré en nous. Prenons l'exemple du sport qui, je pense, est le plus parlant. On va naturellement, quand on cherche à faire du sport, se visualiser dans quelques années avec un physique athlétique, avec un physique qui nous plaît, avec potentiellement une santé qui serait améliorée, avec le regard porté des autres sur nous qui aura potentiellement une teinte de jalousie, une teinte d'envie. Mais on ne va jamais faire le travail de visualiser le négatif. Pourquoi c'est important ? Car tout simplement Eros, donc la dopamine, a certes la faculté de nous faire passer à l'action, mais malheureusement, le fonctionnement même de la dopamine est éphémère dans le temps. En effet, la dopamine, qu'est-ce que c'est ? C'est l'hormone, comme on l'a vu précédemment, de la promesse de récompense. Donc là, on va faire un petit saut dans le passé. Imaginons un lointain ancêtre qui veut chasser une proie qu'il vient d'observer. Donc, il voit la proie, ça déclenche une promesse de récompense de nourriture, et il va se mettre en chasse pour obtenir la nourriture qu'il visualise inconsciemment. Sauf que si la proie s'enfuit, si elle part très loin, et si notre homme préhistorique doit mettre 3 jours pour la récupérer, avec une production constante de dopamine, il va finir par s'épuiser, et donc par mourir. C'est la raison pour laquelle la dopamine fonctionne par pic suivi de creux. Autrement dit, dès lors que le cerveau conscientise que l'effort à fournir devient trop important par rapport à la promesse de récompense, il va créer un creux de dopamine. Autrement dit, l'homme préhistorique, à force de s'épuiser à ne pas récupérer la proie qu'il escompte avoir, va voir son niveau de motivation chuter pour lui faire dire qu'il faut arrêter de dépenser trop d'énergie inutilement pour une récompense qui risque de lui échapper. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, le fonctionnement de la dopamine, c'est un pic et un creux. Et c'est la raison pour laquelle, également, une personne qui se promet de se mettre au sport le 1er janvier va rapidement abandonner en l'absence de récompense et de transformation immédiate. Car la quantité d'efforts à fournir sera trop importante au regard de l'absence de récompense immédiate. Là où à l'inverse, vu que notre cerveau est câblé pour survivre, visualiser le négatif permet de maintenir davantage dans la durée la motivation. Donc, au lieu de se contenter de visualiser l'éros, cette notion de « je vais avoir un corps sculpté »,« je vais attirer le regard des autres », prenez le temps également de visualiser le thanatos, la peur de la mort, la peur de l'échec, la peur des conséquences négatives du non-comportement tenu dans la durée. Donc potentiellement un état d'obésité, un regard des autres porté sur soi qui va être négatif, le malaise que vous pourriez avoir à vous rendre sur une plage et à retirer vos vêtements. Et en visualisant Dès que vous avez une absence de motivation, un déclin de la motivation, cette notion d'échec futur, naturellement, ça c'est documenté en neurosciences, naturellement vous allez maintenir un plus haut niveau de motivation. Que si, à nouveau, vous vous contentiez uniquement de visualiser le positif. Et ça, ça marche pour tous les aspects de sa vie. Se fixer un objectif professionnel en visualisant uniquement le côté positif de l'atteinte de l'objectif ne sera jamais aussi fort que de visualiser également en contrepartie le côté négatif des implications de la non-atteinte de l'objectif en question. Ok, donc la première étape par laquelle passer pour avoir cette capacité à maintenir dans la durée la motivation nécessaire pour répéter suffisamment de fois un comportement, c'est de visualiser en plus du positif les conséquences négatives de notre échec potentiel. Très bien. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 2. Donc, on va revenir à nouveau à la théorie pour commencer. On l'a vu précédemment, la raison pour laquelle le cerveau met en place des comportements automatiques, c'est pour simplement réduire la dépense énergétique qu'il a au quotidien. Donc, à partir de là, on peut en tirer un outil concret, à savoir la réduction de la friction limbique. La friction limbique, qu'est-ce que c'est ? Simplement, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour s'engager dans un comportement et pour le rendre automatique à terme. Autrement dit, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour faire le premier pas, pour impulser une nouvelle habitude que l'on veut mettre en place. Donc, si vous souhaitez mettre en place une nouvelle habitude dans votre quotidien, vous devez avant toute chose réduire la friction que vous oppose ce nouveau comportement. En effet, quand on prend un peu de recul par rapport à notre vie, on remarque facilement que tous les comportements qui dominent notre vie en automatique sont simples à actionner, sont simples à commencer, sont simples à entreprendre. Manger des chips ne demande aucun effort. Versus préparer ce repas, là ça demande un effort. Aller sur Instagram ne demande aucun effort, là où travailler sur un rapport commercial demande du travail et une dépense énergétique importante. Donc si vous souhaitez impulser un nouveau comportement dans votre quotidien, faites en sorte que ce comportement-là vous demande le moins d'énergie possible. Et ça, ça nous mène tout droit vers une règle très simple à mettre en place. La règle des 2 minutes, qui nous dit simplement qu'un comportement pour être impulsé doit prendre moins de 2 minutes. Par exemple, si vous souhaitez lire plus de livres au quotidien, ne vous fixez surtout pas pour objectif de lire un livre par semaine. Prenez plutôt l'habitude de lire 2 minutes ou seulement 2 pages par jour. Si vous souhaitez par exemple courir un marathon d'ici 6 mois, engagez-vous simplement à courir 2 minutes par jour, voire à mettre simplement votre tenue de sport pour commencer. L'objectif évidemment ce n'est pas tant de faire uniquement 2 minutes de lecture ou 2 minutes d'exercice, mais c'est encore une fois d'impulser ce premier pas, impulser ce mouvement, c'est s'engager dans l'action que nous souhaitons faire. Car là, vous le savez très bien, tout comme moi, quand on fait du sport, le plus compliqué, ce n'est pas tant de poursuivre une séance déjà entamée, mais c'est de commencer la séance de sport. Donc, la règle à respecter, l'étape numéro 2, on va dire, si vous souhaitez mettre en place un nouveau comportement dans votre quotidien, faites en sorte qu'il vous oppose le moins de friction possible. Et à l'inverse, si vous souhaitez supprimer une mauvaise habitude, un mauvais comportement, vous devez chercher à augmenter autant que faire se peut la friction limbique. Par exemple, si vous souhaitez passer moins de temps devant la télévision, retirez les piles de la télécommande. C'est bête, mais ça fonctionne. Car pour allumer la télévision, vous devrez aller chercher des piles, les mettre dans la télécommande et allumer la télévision. Ce qui va impulser des comportements supplémentaires qui vont vous coûter de l'énergie et qui risquent de freiner votre cerveau par rapport à cette volonté-là de regarder la télévision. Ok, donc on vient de voir 2 choses ensemble. La première, comment impulser une motivation suffisante pour répéter un comportement suffisamment de fois pour qu'il s'ancre dans les ganglions de base. Après, on vient de voir qu'il faut retirer ou augmenter la friction limbique si on souhaite soit créer un nouveau comportement, soit supprimer un comportement existant. Très bien, donc là, on vient de voir précisément comment favoriser ou défavoriser un comportement au quotidien. Maintenant, nous devons rentrer plus en détail sur le schéma des habitudes pour voir précisément comment appliquer cette nouvelle connaissance-là à la réalité, à votre quotidien. Et pour cela, on va se rendre directement vers des travaux que vous devez connaître, je pense, à savoir les travaux menés par Pavlov. Pavlov et son chien de Pavlov, simplement pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est un scientifique qui a mené une expérience assez simple qui consiste à donner de la nourriture à un chien et de faire précéder cette nourriture-là par le son d'une cloche. Donc là, il vient créer un comportement, une association entre la cloche sonne, puis j'ai de la nourriture, au niveau du cerveau du chien. et il va répéter ce comportement-là pendant plusieurs jours. Et un chien qui s'apprête à manger, que fait-il naturellement ? Eh bien, il salive. Et Pavlov a remarqué au bout d'un certain moment qu'en supprimant la nourriture, mais en maintenant le son de la cloche, que dès que la cloche sonnait, automatiquement, le chien se mettait à baver, sans la présence de nourriture. Et tout ça nous permet de comprendre les phases par lesquelles passe le cerveau quand il suit une habitude. Première phase, c'est le déclencheur. Avec Pavlov, c'est simplement la cloche qui sonne. Le déclencheur crée un désir. Le désir chez le chien, c'est de manger. Après, on a la mise en place d'une action, le fait de manger, et une récompense qui est le fait de s'être nourri. Donc ces quatre étapes-là, donc D-D-A-R, déclencheur, désir, action, récompense, sont les étapes par lesquelles passe chacun de vos comportements automatiques. Et c'est réellement la succession de ces étapes-là qui font une habitude. Et plus ce schéma sera reproduit, plus on pourra également le contrôler au quotidien, plus on va réduire le temps nécessaire pour ancrer ce nouveau comportement dans nos ganglions de base. Ou plus, à l'inverse, on aura la possibilité de désactiver ce comportement négatif automatique que l'on cherche à désactiver. Maintenant, on va combiner cet outil-là, donc la boucle avec le D, le A et le R, donc déclencheur, désir, action, récompense, avec ce qu'on a vu précédemment, la friction limbique. Autrement dit, si vous souhaitez mettre en place un nouveau comportement dans votre quotidien, il vous suffit, entre guillemets, de réduire la friction limbique sur chacune de ces étapes-là. La réduire au niveau du déclencheur, au niveau du désir, au niveau de l'action et au niveau de la récompense. A l'inverse, si vous souhaitez supprimer un comportement négatif pour vous, vous allez devoir chercher à augmenter la friction limbique au niveau de chacune de ces étapes-là. Donc rendre par exemple le déclencheur moins visible, rendre le désir moins important, augmenter la friction au niveau de l'action et supprimer la récompense. Et réellement la récompense, faisons un aparté dessus tellement elle est importante. Le but du cerveau, comme on l'a vu précédemment, c'est de survivre. Donc il va constamment faire un rapport entre l'énergie qu'il doit dépenser au quotidien pour obtenir quelque chose et le niveau de la récompense qu'il espère obtenir. Autrement dit, pour le cerveau, il faut au minimum que la quantité d'effort qu'il va fournir soit égale à la récompense qu'il espère obtenir. Idéalement, il faut que la quantité d'effort qu'il va fournir soit largement inférieure à la récompense qu'il souhaite obtenir. Et plus cet écart sera marqué, plus le comportement sera simple à mettre en place. Et la simple anticipation d'ailleurs d'une récompense suffit à activer la production de dopamine dont on a parlé précédemment pour initier le mouvement. Mais il faut encore une fois que la récompense soit quasi immédiate. Car si elle est différée, la production de dopamine va rapidement chuter et va nous empêcher de maintenir le comportement dans le temps pour qu'il devienne un comportement automatique. Donc prenons deux exemples. Voyons le côté positif et le côté négatif. Comment faire en sorte par exemple de faire plus de sport au quotidien ? Donc là on va commencer par rendre le déclencheur plus visible. On peut par exemple mettre sa tenue de sport la veille au soir au pied de son lit. Maintenant comment rendre le désir plus intense ? On peut s'imaginer par exemple la satisfaction que l'on va avoir à la fin de sa séance de sport. Ou on peut potentiellement se réserver des épisodes de podcast qu'on aime bien écouter pour les écouter durant notre séance de sport, afin de mettre en place un plaisir immédiat, donc l'écoute du podcast, en parallèle d'une souffrance immédiate, donc la course, qui elle n'apporte pas de plaisir réellement à un instant T, du moins quand on commence cette activité-là. Après, comment faire en sorte que le passage à l'action soit plus facile ? Eh bien, on peut simplement prendre le temps, la veille au soir, de planifier sa séance de course. Ou potentiellement, on peut courir avec un ami. Et ensuite, comment augmenter la récompense perçue ? Ou du moins la promesse de récompense à obtenir, eh bien on peut s'offrir un petit déjeuner à la fin de la séance qui nous plaît, que nous aimons particulièrement. Maintenant voyons comment appliquer ces mécanismes-là à la suppression d'un mauvais comportement, à savoir le fait par exemple de boire trop de café au quotidien. Donc là on peut chercher à rendre le déclencheur plus difficile à voir. On peut par exemple mettre sa machine à café dans une pièce où on ne va jamais, ou potentiellement à l'étage si on travaille au rez-de-chaussée. Ensuite, comment rendre le désir moins intense ? Eh bien, on peut acheter simplement un café de mauvaise qualité. Après, comment rendre le passage à l'action plus difficile ? On peut également débrancher sa machine à café. On peut la mettre en hauteur. On peut tout simplement mettre le café et la machine à café dans des pièces différentes. Et après, comment rendre la récompense moins forte ? On en revient à ce qu'on a vu précédemment, à savoir avoir un café de très mauvaise qualité amer, fort en goût, qui nous déplaît. Et donc, en mettant en place ces éléments-là, on va naturellement boire moins de café au quotidien. Super. Donc là, c'est l'étape numéro 3. Donc si je résume, première étape, créer une motivation suffisamment forte pour faire durer la répétition du comportement dans le temps. Étape numéro 2, réduire la friction limbique ou l'augmenter. Étape numéro 3, appliquer cette notion de friction limbique au schéma par lequel passe chacune de nos habitudes. Avant de passer à la dernière étape, petit rappel tout simplement pour vous dire que vous avez directement accès en description à la fiche résumée de ce podcast qui ouvre droit encore une fois à un forum privé pour me poser directement vos questions auxquelles je répondrai personnellement. Et également, vous avez accès à un atelier vidéo dans lequel je présente gratuitement la routine matinale que je suis chaque jour pour augmenter naturellement dès le réveil mes niveaux d'énergie, de concentration et de motivation. Maintenant, dernière étape, une étape trop souvent oubliée également, le fait d'exploiter les rythmes de notre cerveau. En effet, pour créer de nouveaux comportements et de nouvelles habitudes, il est important de jouer avec les règles que nous impose notre physiologie, et notamment les règles de rythme naturel de notre corps et de notre cerveau. Et parmi ces règles, nous avons les trois phases par lesquelles passe notre corps chaque jour. Phase numéro 1, la phase qui va de notre réveil aux 8 heures qui suivent. Durant cette phase-là, notre cerveau est principalement médié par la production de dopamine, de norépinéphrine et également d'épinéphrine. Donc norépinéphrine étant la noradrénaline et épinéphrine étant l'adrénaline. Et durant cette phase-là, nous avons naturellement de l'énergie. Et nous pouvons naturellement avoir la motivation nécessaire et le recul nécessaire, notamment par une activation plus importante du cortex préfrontal, pour suivre et pour mettre en place des habitudes contraignantes. Ou potentiellement pour supprimer des mauvais comportements qui sont difficiles pour nous à retirer de notre quotidien. Donc réellement, axer le développement ou la suppression des comportements difficiles durant les 8 heures qui suivent votre réveil. Ensuite, phase numéro 2, de 9 heures après le réveil à 15 heures après le réveil. Durant cette phase-là, nos productions de dopamine, d'adrénaline et de noradrénaline commencent à chuter pour faire place à la sérotonine notamment, qui nous place naturellement dans un état de détente, dans un état de relaxation, dans un état de concentration. À ce moment-là, c'est l'opportunité parfaite pour réduire nos niveaux de stress et pour prendre des habitudes ainsi que de nouveaux comportements que nous avons déjà commencé à implémenter et qui n'exigent pas de passer outre la friction limbique. Donc on oublie les comportements complexes et compliqués à mettre en place ou à supprimer, mais on se contente soit d'ancrer des habitudes que l'on commence à ancrer, soit d'ancrer de nouveaux comportements qui ne demandent quasiment pas de ressources énergétiques. Par exemple, on peut chercher à apprendre un nouvel instrument de musique ou on peut chercher, par exemple, également à tenir un journal. Par contre, chercher, par exemple, à faire plus de sport, eh bien, ce n'est pas propice à ce moment-là. Et enfin, dernière phase, qui va de 16 heures après le réveil à 24 heures après le réveil, c'est la phase davantage de la préparation au sommeil, médiée par une production accrue de mélatonine, l'hormone du repos en quelque sorte. Durant cette phase-là, on oublie quasiment cette volonté de créer ou de supprimer des comportements automatiques. Voilà, on arrive à la conclusion de cet épisode, avec les 4 étapes dont on a parlé tout le long. À savoir, étape 1, trouver la motivation. Étape 2, jouer sur le niveau de friction limbique. Étape 3, appliquer la notion de friction limbique aux étapes par lesquelles passe chacun de nos comportements automatiques. Et dernière étape, l'étape numéro 4, exploiter les rythmes de notre cerveau. Tout ça nous éclaire sur un élément capital, selon moi. À savoir l'importance de comprendre le fonctionnement de notre biologie et de notre cerveau pour jouer avec ce dernier, pour respecter les règles qu'ils vont nous imposer. Car c'est uniquement en respectant ces règles-là, le rythme naturel de notre corps, la programmation naturelle de notre corps, que nous pourrons pleinement être efficaces et productifs au quotidien. A l'inverse, en jouant contre les règles du vivant, on va directement, certes potentiellement être plus performant à un instant T, mais dans tous les cas, à un instant T plus 1, on sera perdant sur tous les tableaux. Maintenant, pour conclure cet épisode, je ne vais pas vous demander de l'aimer, ni de le commenter, mais de partager ce que vous avez retenu de l'épisode à vos enfants, ou potentiellement à des enfants qui sont proches de vous, à ceux de vos amis, à ceux de vos frères, à ceux de vos sœurs, pour tout simplement leur permettre de comprendre les règles du jeu, de comprendre les mécanismes par lesquels leur cerveau passe, leur biologie passe, leur organisme passe, afin qu'ils puissent s'approprier des concepts qui sont encore jusqu'à présent malheureusement beaucoup trop limités à une élite scientifique. Donc, dotez-les de ces outils-là pour que l'on puisse créer ensemble une nouvelle génération beaucoup plus à l'écoute des besoins de leur corps et beaucoup plus en contrôle de leur biologie et de leur physiologie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao.